Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Parfois, quand une histoire d'amour se termine et qu'on se projette dans l'histoire qu'on voudrait vivre après, on imagine une histoire simple, une histoire douce, une histoire qui rentre dans les cases. Seulement voilà, on le dit souvent dans ce podcast ou d'ailleurs dans notre podcast qui s'appelle Les Rescapés, la vie a plus d'imagination que nous. Jamais Rocio n'aurait imaginé que son nouvel amour ressemblerait à celui qu'elle vit aujourd'hui. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi heureuse et à sa place.
Je m'appelle Rocio et j'ai 43 ans et je suis née à Madrid, en Espagne. Donc, du coup, j'ai grandi jusqu'à mes 29 ans à Madrid. Du coup, je viens d'une famille où on est trois filles et je suis née peu après la fin de la dictature en Espagne. C'était une dictature de Franco assez rigide et je suis née un peu dans les moments où Madrid et Espagne a commencé à ouvrir les droits et tous les côtés culturels, une explosion culturelle. J'ai grandi dans un contexte autoritaire, surtout de la part de mon père et de la part de ma mère. Elle découvre aussi que les droits de la femme n'étaient pas terribles. Elle-même, elle n'a pas pu étudier. Donc, du coup, elle nous a marqué une éducation il faut être indépendante, forte. C'est dur être femme. Elle voulait même pas des filles, elle voulait des garçons parce qu'elle disait c'est très dur être femme dans cette société. Mais elle a vu aussi qu'avec les changements culturels de la société en Espagne, c'était beaucoup plus facile. Donc, du coup, elle nous a éduqués vraiment pour qu'on puisse devenir indépendante et lutter pour ce qu'on voulait. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la médecine et je voulais apprendre à guérir les gens, surtout soulager quand ils souffraient. Mais après, pour être médecin, il fallait être très, très bon dans les études. Et c'est avec la maladie de mon grand-père qui était malade pendant mon adolescence. Et à un moment donné, j'ai suivi avec lui la maladie et il disait tout le temps, ma fille va me guérir, elle va être médecin. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas. Après, il est décédé avant que je finisse les bacs. Je pense que c'est surtout lui qui m'a donné cette courage. Et en plus, il n'avait pas laissé étudier ma mère. Il a toujours regretté après. Donc, du coup, il disait, il faut que tu vis et que tu étudies ce que tu veux. Donc mon grand-père m'a beaucoup encouragé avec sa maladie, avec l'éducation qu'il avait donnée à ma mère et ça m'a beaucoup marqué. J'ai 18 ans et à 18 ans, j'ai réussi à rentrer à l'école de médecine. Et à ce moment, je veux être médecin pour aider les personnes qui ont besoin. Et je pense qu'à ce moment-là, on voyait à la télé toutes les catastrophes, les famines en Afrique. Du coup, je me suis dit, je veux être médecin et aller aider en Afrique et faire ça. Du coup, c'était mon objectif, c'était faire une spécialité où je puisse pouvoir voyager et aider vraiment les personnes qui ont besoin. Mes études de médecine sont dures. C'est difficile parce que je pars tous les matins tôt à 7h du matin, je rentre à 20h et je ne vois pas ma famille, je ne vois pas mes amis. Donc du coup, c'est dur après de rester assis autant de heures, d'étudier, ce n'est pas évident. Et j'ai eu la chance de découvrir une association d'étudiants de médecine. Pendant 3-4 ans, j'ai participé avec cette association. J'ai pu voyager, faire des projets et étudier en même temps. Donc du coup, ça m'a enrichi énormément au niveau culturel et j'ai beaucoup de curiosité, donc du coup, j'adore. C'est vraiment des années que j'adore, en fait. Je suis épanouie. Je rencontre quelqu'un à la bibliothèque, parce que c'est là où je passe la plupart des temps. Donc, une anecdote comme ça, on se rencontre à la bibliothèque, on est deux médecins. Lui, il a 8 ans plus que moi, il est déjà médecin, il commence à préparer son concours de l'internat. Et il a 8 ans plus que moi avec une maturité différente, donc du coup, ça m'aide à découvrir la médecine et le côté social, la montagne, c'était magnifique. Il est vraiment dans un esprit libre, il veut que je sois heureuse. C'est quelqu'un qui m'a aidé, mais je me suis aperçue que c'est un ami en fait. Au bout de 3 ans, je me dis, tu es un ami pour moi, il n'a pas de désir, donc je lui dis, j'ai peur. En fait, j'ai peur de te tromper un jour parce qu'on a une relation qui est magnifique, mais d'amitié. Du coup, on décide de se séparer. Mais je suis triste à ce moment parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais je ne me vois pas avec lui à long terme. Du coup, j'ai fini mes études en Espagne et la dernière année, il faut préparer les concours pour choisir une spécialité. Et à ce moment-là, je n'étais pas sûre de quelle spécialité choisir parce que pour faire l'humanitaire, je ne sais pas trop à ce moment qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai rencontré à ce moment-là aussi un homme qui était ingénieur aéronautique et il étudie énormément aussi, donc ça m'aide aussi à rester assise, pouvoir étudier et préparer ses concours et lui finir ses études. Donc du coup, on s'est accompagnés tous les deux pendant cette période-là un peu compliquée de finir les études de médecine et rentrer à les spécialités. J'ai travaillé pendant que je prépare mon concours pour rentrer à l'internat. J'ai fait quelques mois dans un centre des toxicomanes. Et là, il faut réanimer des personnes. Et c'est les infirmiers qui m'ont dit, mais Rocio, tu vas faire quoi? Je sais pas, j'aime plein de choses et je vais faire l'humanitaire. Il m'a dit, il faut que tu sois anesthésiste, réanimateur. Tu es calme, on ne voit pas les stress, tu dis les choses claires. Et je ne connaissais même pas qu'est-ce que c'était l'anesthésie réanimation. Donc du coup, je me suis renseignée et c'est vrai que j'étais faite pour cette spécialité. Cette période de ma vie, je suis épanouie parce que je suis anesthésiste, c'est ce que je voulais faire. J'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse de lui, il est hyper créatif, on s'entend très bien, on ne se dispute jamais. Je me suis dit, pourquoi pas, on va fonder une famille. Donc du coup, on a acheté un appart, on a dit, bon, c'est le moment pour nous tous les deux, si on va avoir des enfants, et on décide d'avoir des enfants. Pendant 2 ans, on essaye et les enfants ne viennent pas. Et à un moment donné, je parle avec lui et je lui dis, tu sais, mon rêve, c'est faire l'humanitaire. Peut-être mon corps est en train de me dire, ah bah non, ce n'est pas le moment, donc pourquoi on ne part pas avant faire l'humanitaire? Parce que lui, il voulait aussi, il était pour partir comme logisticien. Et du coup, j'ai fait toutes les démarches, mais lui, il ne suit pas. Et au moment que je suis prise, que j'ai fini l'internat, je suis prise pour partir à Médecins Sans Frontières. Il m'a dit, non, en fait, je ne vais pas. Je suis désolée, j'ai peur de te le dire, j'avais peur de te perdre, mais je ne vais pas faire ça, je ne veux pas cette vie. Du coup, à ce moment-là, je me sens trahie. Je me suis dit, mais pourquoi je l'aime, on s'aime. Pourquoi il ne me l'a pas dit avant? Enfin, on n'a pas 6 ans. J'ai voulu faire des enfants avec lui. Et là, on va partir le moment. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est trahi. Mais c'est une bonne personne. Et je pense qu'il n'a pas su me le dire. J'étais très triste de quitter cette relation. Mais je me suis dit, c'est mon rêve. Je voulais faire ça. Et je pars. Donc, j'ai fini mon internat le 23 mai 2009. Et le 28 mai, je suis dans un avion pour partir au Sri Lanka, à la guerre de Sri Lanka. C'est le jour de l'anniversaire de ma mère en plus. Donc, c'était son cadeau d'anniversaire. Et pour moi, c'était mon rêve, mais en même temps, j'ai quitté toute une vie, j'ai quitté Madrid, Espagne. Pour moi, j'ai fait un rêve, mais je suis consciente que j'ai quitté Madrid, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté cette personne avec laquelle j'ai commencé une histoire. Donc du coup, je prends l'avion et je pleure, j'ai toutes les émotions, je pleure pendant 2 heures, mais je suis heureuse en même temps. J'arrive au Sri Lanka, complètement chamboulée. Et pendant 6 mois, j'ai fait Médecins Sans Frontières au Sri Lanka, après au Nigeria. Là, je suis à ma place, je voulais tenter voir qu'est-ce que c'était. Et après, j'ai croisé pas mal de personnes, on m'a dit, faire le humanitaire, c'est bien, mais il faut être raciné. Si tu fais ça toute ta vie et tu pars tout le temps dans différents pays, ça va manquer tes racines chez toi. Donc du coup, réfléchis bien ce que tu veux faire. Donc du coup, j'ai réfléchi, j'ai pris 6 mois. Et après, je me suis dit, je fais ça 6 mois et par contre, je ne vais pas faire ça toute ma vie. On continue, je vais le faire ponctuellement. J'ai décidé à ce moment-là, quand je vais partir de Nigeria, partir en Angleterre pour faire mon spécialité d'anesthésie pédiatrique. En Nigeria, c'est la deuxième mission et j'avais tout préparé après pour partir en Angleterre et j'y rencontre Mathieu. C'est l'administrateur de la mission, c'est une petite mission et c'est lui qui s'occupe un peu de tous les personnels. Donc, il nous fait le débriefing, il nous explique tout et on est les 2 jeunes de la mission, donc du coup, on commence à prendre un verre après l'hôpital. Il est très intéressé pour mon métier. Lui m'explique un petit peu comment ça se passe parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Ça fait plusieurs mois qu'il est là. Et petit à petit, on devient très proches et jusqu'à qu'un jour, bah, on s'embrasse et on commence une relation. Ce qui me plaît, c'est que quand on parle, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui a les mêmes projets de vie que moi. Et il est parti faire l'humanitaire, il était déjà là. Il est étrangère, c'est exotique, on se rencontre dans mon rêve, que c'est faire l'humanitaire, on se rencontre en Afrique. Donc du coup, pour moi, j'ai dit, ça y est. Du coup, j'ai dit, j'explique mon projet, je vais partir en Angleterre faire l'anesthésie pédiatrique. Il m'a dit, mais moi, je vis à Paris, pourquoi tu viens pas à Paris et tu essaies à Paris? À ce moment-là, moi, je ne parle pas français, je ne connais pas Paris. Quand j'ai mis un pied à Paris, j'ai trouvé que c'était gris. Je me suis dit, ben, Paris. Mais après, j'étais amoureuse de lui, c'était l'amour. Et je me suis dit, non, mais cette histoire, on s'est rencontré une fille, c'était mon rêve. Donc, du coup, ça va marcher. J'échange tous mes plans. Je rentre des Nigeria. J'informe mes parents que j'ai rencontré quelqu'un et que pour amour, je m'installe à Paris. Donc du coup, mes parents m'ont dit « Oh, ok ». J'ai fait un cours de français d'un mois et demi et j'ai postulé pour travailler à l'hôpital à Necker et on m'a pris en 2 mois. J'ai commencé à travailler dans un hôpital pédiatrique en parlant comme je pouvais français. On s'installe dans un petit appartement à Paris. On décide rapidement, comme on a les mêmes projets de vie, tout est clair. On veut avoir des enfants, on veut avoir tous les deux 3 enfants. On veut continuer à faire l'humanitaire. On a les mêmes projets de vie, on décide d'avoir 3 enfants. Et quand on a la première, il décide qu'il va postuler pour travailler pour l'agence de développement. Du coup, je l'ai aidé et on a participé ensemble. C'était nos projets. Il va travailler pour le développement. On va construire notre famille et un jour, on va repartir en Afrique, tous ensemble. Donc, on a eu les 2e enfant. La vie des familles, ça se passe. Lui, il est tellement focalisé sur son développement professionnel qu'il s'occupe surtout de ça. Et moi, c'est moi qui s'occupe plus de tout ce qui est les enfants, la maison, toute la logistique. Il est très organisé, donc c'est quelqu'un qui organise toute la maison, mais c'est moi qui s'occupe un peu de tout. Donc, du coup, on a un 2e enfant. À ce moment-là, c'est quand il rentre travailler à l'agence de développement. Donc, je suis ravie parce que c'est son rêve. Je me suis dit, ça y est, il va être épanoui. Et on va pouvoir être heureux et avoir une vie familiale géniale. On a tous les deux le travail qu'on veut. Lui, il va être épanoui professionnellement. Et on a 2 enfants, c'est magnifique. Et j'ai commencé à être fatiguée. Et à un moment donné, j'ai tombé enceinte de 3e. Et au moment que je tombe enceinte de ma 3e, je me suis dit, non mais j'arrive pas, je suis épuisée, je suis fatiguée comme jamais. Et je lui dis, je veux avoir cet enfant parce qu'il est dans mon ventre, mais j'étais en choc pendant 2 jours de ma fatigue. Donc je lui ai transmis ma fatigue, mais il m'a dit, on va y arriver, ce n'est pas grave. C'est notre projet de famille, on veut ça, on va y arriver. Donc du coup, on a changé de maison, on est allé vivre à Fontainebleau, on a une maison. Et au bout d'un an, il me propose de partir en expatriation avec la naissance de la 3e. Je suis très fatiguée et je lui dis, c'est pas mon moment, je viens de commencer cet hôpital. Et avec les 3 enfants, c'est mon rêve aussi de repartir en Afrique avec les 5 enfants, mais je me sens pas de partir. Oui, il me dit à ce moment-là, il me dit... C'est très important pour moi, c'est un rêve, c'est une espèce de prix et de précieuse que c'est que me propose. En plus, c'est au Maroc. Je dis non, mais au Maroc, en fait, pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne. Et pour moi, j'avais des conditions de, qu'elle soit safe pour les enfants, qu'elle soit anglophone, que je puisse travailler. Donc, il me dit, bon, c'était francophone, c'était pas l'Afrique subsaharienne, c'était safe pour les enfants. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Et à ce moment-là, j'ai fait une méningite. Et. J'étais tellement fatiguée, je pense que mon corps ne pouvait plus. Et je me trouve à l'hôpital de Fontainebleau. Et je me sentais à ce moment-là, je ne peux pas empêcher les rêves de mon mari de partir. En Afrique, c'est notre projet. Et je suis tellement fatiguée, donc je me sentais culpable. Donc du coup, j'ai dit, OK, allez, on va au Maroc. J'accepte et on part au Maroc. Du coup, maintenant, c'est une nouvelle aventure pour nous. Et moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et je m'aimais tout le temps. Bon, OK, c'est Maroc. Et je m'aimais en mode optimiste. J'ai beaucoup d'énergie. On va y arriver. Quand on arrive au Maroc, avec les 300 enfants, ça fait 1 an, 300 et 5 ans. Je me suis reposée pendant 3 mois. Et une fois que je suis là, je m'aperçois que je ne peux pas travailler. Parce qu'il faut être marocaine ou marier avec un marocain pour pouvoir travailler comme anesthésiste. L'équilibre entre maman... Et ma profession, c'est très, très important. Et lui, il me dit qu'il ne me comprend pas trop, que les femmes d'expatriés, ils sont contents de voir un thé faire du yoga, qu'il ne comprend pas pourquoi je veux faire ça. Et je lui dis, parce que j'adore ma profession, je voulais faire l'humanitaire et partir comme ça. Mais je ne me sens pas compris à ce moment-là. Et je trouve les moyens de pouvoir travailler en France 1 semaine par mois et essayer de faire un peu d'humanitaire avec des ONG en Afrique. 1 semaine par mois, je travaille. Et le reste du temps, je passe avec mes enfants. Donc, j'ai trouvé un équilibre parfait. Et petit à petit, je ne me sens pas soutenue. Je ressens qu'il est jaloux. Du coup, ça m'a perturbée. Et au bout d'un an, je lui ai dit... Et en plus, je ne le sentais pas épanoui lui-même. On ne faisait pas des vies en famille. Son travail était à côté de la maison. Il ne passait pas de temps avec nous. Il n'accompagne pas les enfants à aller à l'école. Il les récupère. C'est moi qui s'occupe de tout avec la nounou qu'on a ici. Et à un moment donné, je lui ai dit, je vais me séparer. On s'entend bien. On a 3 enfants, mais ce n'est pas la vie que je voulais. En fait, Je me sens pas respectée comme femme ni professionnellement. Je n'y vais pas ça. C'est très dur parce que j'ai 3 enfants. J'ai accepté cette expatriation. Je me trouve dans 100 pays où je ne peux pas travailler, de faire des allers-retours. Donc, je propose qu'on continue à vivre ensemble, mais dans des chambres séparées. On vit pendant un an et demi séparés. On en forme petit à petit la famille, les amis qu'on est séparés. Mais je vois qu'il n'est pas convaincu qu'on est vraiment séparés. Il a du mal à rencontrer ça à la famille, à tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne. Et ça fait un mois que j'avais commencé une relation avec cette personne. Et un jour, il me demande si j'avais refait ma vie. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est ma vie intime, pourquoi je vais lui dire? Mais après, je me suis dit, peut-être ça va lui aider à comprendre que nous, on est vraiment séparés et à passer les pas. Du coup, j'ai dit, oui, je commence une relation avec, il y a un mois, mais c'est quelqu'un qui habite en plus en Espagne, donc c'est à la distance, donc on ne sait pas. Donc, un mois plus tard, de cette conversation, j'ai reçu en arabe un papier en disant, procédure de divorce, contention en cours et une plainte contre moi d'adultère et fermeture de frontières. Pour risque de fuite. Et alors, du coup, je suis là, j'ai dit, mais comment tu m'as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à communiquer. De quelle fuite tu parles? À partir de ce moment-là, la communication entre mon mari et moi, elle est finie. Du coup, tout passe par les avocats. Donc, je passe pendant 2 ans à me défendre des plaintes après plaintes d'adultère dans un pays où l'adultère, c'est prison. Et heureusement que nous, on est suivis légalement comme des Français. Donc, du coup, l'adultère n'est pas pénal, mais on me fait comprendre que c'est la procédure habituelle pour faire peur aux femmes et pour t'empêcher de partir de chez toi. Donc lui, son but, c'était que je ne pars pas de chez moi, une espèce de possession. Et il ne voulait pas se séparer, il voulait qu'on continue à faire une vie en famille. Et du coup, ça a été très dur parce que tout passait par les avocats en arabe. Et à un moment donné, il a postulé pour rester 1 an de plus. Et je lui ai dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas travailler ici. Et le Covid est tombé. Au moment que j'étais dans ma semaine de travail en Europe et pendant 4 mois, le Maroc a fermé la frontière et je lui ai dit, bon, c'est le moment de revenir. On revient à Paris et on s'installe et on voit comment on fait. Il a dit non, c'est toi qui as décidé de partir. Donc, c'est ton problème. Du coup, il est resté là-bas pendant 4 mois. J'ai pas vu mes enfants avec ce divorce en cours hyper compliqué. Et quand le Maroc a ouvert la frontière et je suis rentrée, je me suis dit, je peux plus continuer comme ça. Donc, je suis partie de la maison. J'ai pris une maison à part à Rabat. J'ai décidé de plus travailler. Pendant 1 an, je me suis dit, je ne travaille plus parce que j'avais peur que la frontière referme. Et je m'occupe de mes enfants et de sortir de ce divorce au Maroc. Du coup, je me suis concentrée à ça. Et à la fin, la justice m'a donné la raison. Ils ont classé toutes ces plantes et on m'a donné la garde des enfants. Du coup, j'ai décidé de revenir, pas à Paris, mais de revenir en Bretagne. Je recommence une nouvelle vie en Bretagne et je commence en septembre 2021 à l'hôpital de Brest, normalement pour faire l'anesthésie pédiatrique. Et je suis à niveau personnel détruite. C'est une reconstruction petit à petit. Je suis suivie par un psychologue à ce moment-là qui m'aide à la reconstruction comme femme, comme mère, comme professionnelle. Parce que ça a été dur pour moi, ce sentiment de ne pas avoir réussi mon projet familial, personnel. Donc du coup, c'est vraiment très dur pour moi de faire les deuils. Je me croyais une personne hyper forte et d'un jour à l'autre, un tremblement de terre, tout est détruit et tu repars des zéros. Travailler, ça m'épanouit, je me sens bien, ça me donne l'énergie. Être avec mes 3 enfants, les voir qui sont heureux, ça m'aide. Ma famille, mes amis sont un soutien impressionnant de me rappeler que la personne que je suis, la mère que je suis, quand j'ai travaillé mes patients, bon, que je suis bon médecin. Petit à petit, je m'aperçois que je peux m'en sortir. Ça a été dur sortir de Maroc, ça a été dur ce divorce, mais je dois être bien pour mes enfants, je dois être bien pour moi-même et je mérite une autre opportunité. Quand je commence à l'hôpital, je ne suis pas consciente de tous les plaies qui ne sont pas guéries parce que je suis très optimiste et je dis, je vais y aller, j'ai 3 enfants, il faut que je continue. Un jour, si on garde un samedi, ma famille est là, ma sœur avec les enfants sont venus nous voir et on est hyper contents, mais moi j'avais cette garde et je ne peux pas la changer. Donc, je pars samedi à ma garde et je suis dans les vestiaires. Et il y a une personne, une femme qui ouvre la porte tout sautillante et me dit « Bonjour, je m'appelle Marielle, je suis l'interne qui est avec toi des gardes aujourd'hui. » Et moi, je dis « Je ne suis pas bien, mais ce sourire, cette énergie, ça m'a fait quelque chose. » Mais à ce moment-là, j'ai pu dire que Du coup, on commence la garde ensemble et on parle pas mal. C'est une fille qui parle énormément, qui me pose des questions et c'est une garde hyper occupée. On n'a pas arrêté de travailler. Et malheureusement, on a accepté un enfant qui a une plaie très importante au niveau cérébral. On passe toute la nuit au bloc opératoire avec cet enfant. Et malheureusement, il a une lésion très grave à un niveau cérébral. Donc, on doit annoncer aux parents aussi qu'il est mort cérébral, qu'ils n'ont pas pu récupérer. Donc, du coup, émotionnellement, c'est très dur. Marie, qui est interne, elle le vit très mal. Mais cette gare, ça ne reste jamais. En fait, on est appelé tout le temps, on continue. Même à 8 heures du matin, quand on devait partir, je suis appelée parce que le père de cet enfant a fait un malaise très important au moment de l'annonce de la nouvelle. Du coup, on réanime les papas à ce moment-là. Et on est aussi appelé pour un césarien urgent. Et en plus, j'ai toute ma famille à la maison que je voulais leur dire au revoir. Quand le relais arrive, il y a beaucoup d'émotions dans ma tête. Donc, je pars. Je ne dis même pas au revoir à Marie qu'on a passé toute la nuit ensemble, toute la journée ensemble. Et très dur émotionnellement. Et je pars sans dire au revoir. Du coup, je vois ma famille, je raconte ce qui s'est passé. Et je demande à un collègue s'ils ont le numéro de téléphone de Marie. Pour l'envoyer un message, moi, pour lui dire que je m'excuser de pourquoi je suis partie. Et donc, du coup, j'ai envoyé un message à Marielle en lui disant « Je suis désolée, c'était une garde très émotive et je n'ai pas pu te dire au revoir. Si tu veux, un autre jour, on fait un petit briefing parce que ça a été très dur. » Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé les contacts. Et petit à petit, on a travaillé ensemble et on a commencé à parler. Je commence à découvrir Marielle. C'est une fille avec plein d'énergie, radieuse. Très sympathique, elle me pose des questions sur moi, comment j'y vais. Je raconte toutes mes histoires de Maroc, de mes enfants. Elle écoute, elle me donne des bons conseils. Elle est très admirative de ma force, de ma volonté, de tout ce que j'ai fait, de comment j'ai pu m'en sortir, de divorcer avec ses enfants. Elle me rassure, elle m'aide aussi à ma reconstruction. Et Marie, c'est quelqu'un qui est très séductrice. Donc du coup, parfois, je sens qu'elle m'aiderait, mais je vois qu'elle fait ça avec des autres personnes. Donc du coup, je ne le prends pas au sérieux. Elle me flatte, elle me dit « Ah, j'adore l'accent espagnol ». Donc, petit à petit, elle me dit des choses comme ça, mais je ne prends pas au sérieux. On a 13 ans d'écart, je suis sa chef. Et moi, à l'hôpital, je ne vais pas mélanger les affaires de l'hôpital, le travail et le personnel. En plus, il y a une hiérarchie entre nous. Et c'est une femme, c'est une voie que je n'ai jamais explorée. Donc, du coup, je ne suis pas sûre de vouloir explorer. Mais à un moment donné, on commence à parler. Un jour, je la propose de prendre un thé en dehors de l'hôpital. Parce que je vais parler avec elle, je vais m'approcher d'elle et... Et être sûr si c'est réel, c'est que j'ai l'impression d'être en son temps. On prend un thé ensemble, on parle. J'ai raté mon car pour rentrer à la maison. Donc, du coup, je lui dis, j'ai plus de car. Elle me dit, ne t'inquiète pas, j'ai ma moto ici. Si tu veux, je t'amène. Et moi, quand elle me dit ça, mon rêve, c'était d'avoir une moto rouge. Et quand j'étais en moto, il me dit, oui, quelle couleur rouge? Il me dit, quoi? Bah oui, je suis contente d'avoir raté mon car. Bah, si ça ne te dérange pas, tu peux me ramener, oui. Donc, du coup, elle me ramène. Et là, à ce moment-là, je monte dans la moto avec elle. Et du coup, on est collés l'une contre l'autre. Et pendant les trajets, ça dure un quart d'heure. Et je suis la moto avec elle, avec une femme, avec laquelle j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Et elle met une main sur ma jambe quand elle est sur la moto. Du coup, pour moi, c'était les signes de me dire « Ah, c'était pas une blague, en fait. Je pense qu'il a quelque chose. » Quand elle met la main sur ma jambe, mon cœur bat très rapidement. Je me suis dit à ce moment-là, non, mais je ressens des choses pour cette femme. Il y a quelque chose. Donc, du coup, je me dis, là, on arrive à la maison avec les enfants. Je n'ai pas trop le temps de réfléchir, mais bon, ça m'a marqué ces moments-là. Donc, elle raconte mes enfants sont ravis de voir la moto, Marielle. Ils sont hyper sociables. Donc, du coup, elle repart. Cette nuit-là, je pense à dire, en fait, c'est une femme. Je ne me suis jamais laissé l'opportunité d'explorer cette partie de moi. Et pourquoi pas, en fait, même si on a 13 ans d'écart, travailler à l'hôpital, c'est une femme. Peut-être que j'aime les femmes, je ne sais pas, mais je commence à sentir des choses. Je vais essayer, je vais me lâcher, je vais dire, vas-y. J'ai envie de me donner cette opportunité de découvrir cette partie de moi. Physiquement, elle est de ma taille, 1m70, elle est brune, elle est forte, elle est très sportive. Elle n'est pas très féminine quand elle s'habille plutôt masculine. Et elle est souriante, elle a toujours un mot à te dire pour te rassurer. Elle est très active, elle adore faire plein de choses, et un peu comme moi. Donc du coup, je me suis dit, c'est la personne parfaite. En fait, pour moi, c'est la personne que j'ai jamais rencontrée. En plus, c'est une femme. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi je ne me donne pas cette opportunité? Le lendemain, on est des gardes ensemble. Ces gardes-là, je me dis, il faut qu'elles comprennent mes sentiments aussi, ce que je ressens. Donc du coup, si à chaque fois qu'elle me faisait une blague ou elle m'envoyait un message, moi j'ai répondu. Donc c'est « Mais ah, tu es belle aujourd'hui ?»« Ah bah toi aussi, tu es belle. » Pendant la garde, il m'avait prêté son chargeur de téléphone. Et on va se coucher. Et je lui ai déjà envoyé un message en me disant, bah, j'ai ton chargeur. Et quand on était garde, il a deux chambres, une chambre pour l'interne, une chambre pour le chef. Du coup, j'ai dit, mon chargeur dans ma chambre, si tu en as besoin, tu peux venir le chercher. Je me suis dit, bon, si elle passe cette porte en venant le chercher les chargeurs, ça veut dire qu'il a quelque chose. Donc du coup, elle a mis une heure à répondre. Elle m'a dit, ok, j'y vais. Donc elle a ouvert cette porte. Et quand elle est rentrée, elle a dit, je ne sais pas si j'ai fait une bêtise. Alors, du coup, j'ai dit, si tu fais une bêtise, bah rentre pas. Il n'y a rien, tu mets dans les chargeurs, tiens les chargeurs. Et à ce moment-là, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassés et on était bien. On est restés dans les bras l'une de l'autre. Et je suis bien, je me sens bien, je me sens en paix. Et du coup, ces jours-là, c'est quand on s'est aperçus tous les deux qu'on a des sentiments l'une pour l'autre et que peut-être on a verbalisé pour la première fois si on pouvait se donner une opportunité. Et elle m'a avoué, elle était en couple avec quelqu'un, mais ça ne s'est passé pas bien, elle voulait quitter cette relation, mais qu'elle était à des années-lumière d'imaginer que je voulais quelque chose avec elle. Pour elle, c'était impossible. Du coup, elle me dit, mais non, mais tu as 40 ans, c'est ta crise de la quarantaine. Je pense que tu veux simplement te taper une femme jeune et c'est tout. Et du coup, je lui ai fait comprendre que non, pas du tout. Oui, j'ai 40 ans, mais je ne suis pas en crise, que j'ai des sentiments pour elle. Et que par contre, je ne veux pas qu'elle quitte ses relations pour moi. Je veux vraiment me donner cette opportunité justement pour elle. Et je ne veux pas simplement passer du temps et que du plaisir. Je sentais à ce moment-là que j'avais envie de créer une relation avec elle. Sa vie, comme elle était, ça me plaisait pour partager ma vie avec elle. On se sépare parce que c'est Noël, donc elle part avec sa famille dans le sud. Et moi, je pars à Madrid avec mes enfants. Et je lui ai demandé, déjà reçu un message un jour me disant, ben, j'ai quitté ma copine, je rentre, je déménage et j'ai envie qu'on se donne cette opportunité. Tout au début, je suis à l'aise. C'est surprenant que pour moi, le fait que je sois une femme, ça ne me perturbe pas du tout. Quand je raconte à mes amis, à mon entourage que je suis avec une femme, je m'aperçois que je le dis avec une naturalité comme si j'avais toujours été avec des femmes. Marie, elle avait pris une location, donc du coup, elle faisait des allers-retours, elle venait à la maison, de temps en temps, elle avait sa location. Et je lui dis à ce moment-là, en fait, moi, j'ai un passé assez lourd. J'ai 3 enfants, un divorce compliqué que ce n'est pas encore résolu. Tu as 13 ans de moi, tu es encore interne. On est dans des moments de vie très différents. Si tu veux vraiment commencer une vie avec moi, il faut que tu te noies un petit peu dans mon quotidien et tu décides librement si tu veux ça ou pas, parce qu'on a vraiment des vies complètement séparées. Marie, c'est une fille hyper libre. Elle a fait les tours du monde 2 fois. Elle fait du kitesurf, elle adore passer du temps avec ses amis, elle a une vie, elle a des 30 ans. Alors, du coup, petit à petit, elle vit avec nous et elle dit, bah oui, je vais donner cette part avec toi. Et ma mère, elle arrive un mois plus tard. Donc, du coup, ma mère arrive, elle rencontre Marielle et je lui dis, bah moi, je suis avec une femme, je suis avec elle. Et ma mère, elle n'est pas surprise, mais elle me dit, mais par contre, toi, dis pas à ton père. Hein? Je lui dis, pardon, pourquoi je ne vais pas lui dire? Mais elle a un peu peur de dire aux autres. Du coup, j'appelle mon père et je lui dis, et mon père, pareil, il les prend super naturellement, il n'a aucun souci. Personne ne me fait de la réflexion de, mais tu es sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme si ça a été toujours naturel. Mes enfants, quand ils la voient de plus en plus à la maison, ils lui demandent, ah, est-ce que tu es un amoureux? Il a dit, non, moi, j'aime les filles, donc j'ai une amoureuse. Et les petits posent des questions, et mes enfants parlent énormément, et un jour, au bout d'un mois, il n'est comme mon fils, je lui pose la question, tu es amoureuse de quelqu'un? De qui? Et Marie ne veut pas le dire. Nous, on n'avait pas parlé de comment dire aux enfants. On n'était pas encore là. Et un jour, Nico lui dit, mais je pense que tu es amoureuse de ma mère. Et du coup, Marie a répondu, bah oui. Ça a été naturel. En fait, nous, on n'avait pas parlé, mais c'est vrai que la réponse était naturelle de lui dire. On ne voulait pas les mentir. Donc, on a dit comme ça. Et mes enfants, ils étaient hyper contents. Ils adorent Marie. Elle est là. Elle a tellement d'énergie. Elle est radieuse. Rapidement, ils ont vu que moi, j'étais heureuse aussi. Et ils voulaient que je sois heureuse. Donc, du coup, ça a été naturel. Cette première année a été naturelle dans plein de sens, on se sentait bien, mais en même temps, au bout d'un an de relation, on a eu une crise dans notre relation, en même temps qu'on a eu un problème à l'hôpital avec notre chef de service, qui a harcelé psychologiquement depuis des années dans cet hôpital, donc du coup il a été écarté, et Marielle était une des victimes aussi. Du coup j'ai soutenu Marielle à tout moment avec cette affaire, comme tous les autres, mais elle n'était pas bien à ce moment-là. Et nous, on a vécu une crise de notre couple très forte. Moi, je sentais qu'elle avait fait un changement de vie très important, très rapidement, et qu'elle n'est plus elle-même. Du coup, on a remis à plat tous nos piliers de comment on est tous les deux. Et m'a fait remarquer des plaies que j'avais de mon passé, que je n'avais pas guéri complètement. Elle m'a mis un miroir devant moi, parce qu'en fait, elle n'est pas maman, elle n'a pas vécu les mêmes choses que moi. Donc, du coup, elle a une perspective complètement extérieure de moi. Et grâce à elle, moi, j'ai pu guérir certains plaies que j'avais pas pu guérir. Ce que j'aime de Marielle, c'est son caractère. Elle ne se laisse pas faire, elle n'est pas soumise. Elle n'est pas comme ça, elle te dit les choses comme ils ont. Elle a eu du mal la première année, mais elle a réussi à me le dire. Donc, la deuxième année, elle a réussi à prendre de l'espace pour elle, à faire sa place à la maison, à s'occuper d'elle, à faire son sport, s'occuper de ses amis, d'elle-même. Du coup, on arrive à cette phase-là. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai pu me confronter à mes problèmes à moi, à comment je suis, à la nécessité d'être consciente de la vie, du quotidien, de voir bien les choses et de vivre la vie ensemble et en se respectant l'un et les autres. Pour elle, se marier, c'est un rêve des filles. C'est un grand mariage, c'est comme elle s'imaginait, c'était très important. Et quand elle me parle de mariage, je lui dis, mais moi, je sors de divorce, un mariage très compliqué. Et je lui suis doublement séparée parce que j'avais eu déjà ma première relation à partir avec Médecins Sans Frontières. Mon deuxième mari avec mes enfants, donc du coup, je me suis dit, non, mais le mariage, je suis vaccinée et je n'ai pas très envie. Mais je vois que pour elle, c'est très important. Du coup, je vois qu'elle est déçue, que c'est dur pour elle, en fait. Et pour les jours de son anniversaire, en 2022, je me suis dit, en fait, je veux lui montrer que j'ai cet engagement, que même si moi, la fête de mariage, ce n'est pas important pour moi, je n'avais pas très envie à ce moment-là, je veux lui montrer que oui, que je veux ça aussi. Donc du coup, je lui demande mariage. Les jours de son anniversaire, j'ai fait une fête et je lui demande mariage. Donc pour elle, est complètement surprise, elle ne s'attendait pas. Elle dit oui tout de suite et elle est un peu choquée. Donc on a dit oui. On a dit un jour, on va se marier. Donc, elle a voulu, quelques mois plus tard, me demander mariage quand elle était prête pour me demander mariage. Elle avait dit oui, mais elle voulait aussi me demander elle-même. Et un jour, on dit, bon, un jour, on se mariera. Et en 2023, on a acheté une maison. J'ai réussi à avoir mon divorce, finalement. Et on s'est dit que d'un point de vue administratif, c'était mieux pour les enfants, pour l'achat de la maison, d'être mariés. Donc, du coup, on a dit, bon, on se marie, on va à la maison, on se marie, on fera la fête à un autre moment. Du coup, on a décidé de faire ça. On est allé à la mer avec des témoins. On s'est marié, on a signé, il n'y avait personne. Et après, on a fait un restaurant. Et ces jours-là, c'était les 13 avril 2023. Et ces jours-là, ce n'était pas les mariages qu'elle avait imaginés. On est allé à la mairie, on a signé, il n'y avait personne autour. Et moi, j'ai fermé une étape de divorce. On venait d'acheter une maison et il y avait beaucoup de choses en même temps. Et j'ai senti qu'elle n'était pas là. À ce moment-là, ces jours-là qu'on a signé et qu'on est allé après en restaurant, je sentais qu'elle n'était pas là, donc je pleurais. Enfin, j'ai passé toute ma soirée à pleurer, à lui dire « je ne suis pas bien ». Donc du coup, ça a été hyper dur parce que c'était les jours de notre mariage, on était heureuses, on s'aimait. Et moi, j'ai pleuré. Donc du coup, ça a été très compliqué ces jours-là. On a parlé après, on a mis les choses à plat, on a dit qu'il avait trop d'émotions ensemble. Moi, j'avais des choses que je n'avais pas encore guéries. Et je pense qu'elle a compris que moi, je me suis engagée avec elle à vie, que j'ai compris que le mariage est important pour elle, que je vais aussi, moi, faire une fête et transmettre ça à la famille, aux amis, à mes enfants. Et j'ai compris l'importance pour elle, qu'est-ce que ça représente de dire à la société, à la famille, montrer notre amour, notre engagement, et qu'on est fait l'une pour l'autre, et que nous, notre vie et notre relation, c'est pas tout fluide, on ne se dispute jamais, c'est tout le contraire. En fait, on a eu des hauts et des bas très importants, des crises très importantes. Mais on s'est mis des miroirs une face de l'autre. On est conscient de notre clé. On les guérit ensemble. On se soutient ensemble. On passe des moments merveilleux. Et les moments de souffrance, on arrive à s'en sortir. Et elle le sait qu'un jour, on va faire cette fête. C'est un peu compliqué parce que c'est deux pays différents. Les familles réparties partout et les familles qui ne parlent pas la même langue. Mais je pense qu'on dit qu'on veut un truc tous les deux. On bouge des montagnes et on va arriver. Et si j'ai fait ce témoignage aujourd'hui et je veux que ça sorte le 13 avril 2024, la première année de notre anniversaire, c'est pour te montrer, Marielle, que je t'aime, que cet engagement est ta vie et que grâce à toi, j'ai pu me reconstruire. Tout ce que tu m'apportes tous les jours, c'est un cadeau que je vois tous les jours. Je suis consciente maintenant pleine de mon quotidien, de ma vie et je veux le faire avec toi.
<t'->
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.